Bon, bah, très bien. On va enchaîner dans ce cas avec la présentation de Magali Besson, philosophe, désormais au sein du département de philosophie de l'Université Paris 1, et qui va nous présenter un texte, Natural Kind versus Social Kind, l'affaire de la réalité de la race.
Merci. Alors, donc je voudrais, alors je ne sais pas en tant que quoi j'interviens, donc philosophe, constructiviste, représentante des sciences humaines, des sciences sociales, mais bon, disons que mon discours sera un discours moins historique, en effet, que celui qu'on a entendu ce matin, et néanmoins, à mon avis, qui ne va pas interrompre la discussion qui avait débuté ce matin, mais qui va plutôt permettre ou continuer à la prolonger. Donc je voudrais d'abord préciser le sens de l'opposition que j'ai proposé dans le titre. Donc natural kind and social kind, un genre, alors ce que j'appelle ou que je traduis par genre naturel, kind c'est un terme difficile à traduire, on peut le traduire, certains choisissent type, certains choisissent espèce. Moi j'ai choisi genre parce qu'il me semblait que type et espèce, quand on parle de race, sont des termes compliqués. Alors genre, bien évidemment, on entend tous les notions race, genre, classe, mais il me semblait que la distinction était quand même plus facile. Donc je traduirai ici natural kind par genre naturel. Et en philosophie, ou du moins dans la philosophie dans ma littérature, ça désigne la catégorie des objets faits par la nature, des planètes, des molécules, par opposition à, donc dans mon titre, Natural Kind versus Social Kind, par opposition à la catégorie des objets construits par les hommes, dont certains sont socialement construits, et les exemples classiques dans la littérature, notamment d'ontologie sociale, sont un match de foot, ou l'euro, ou le dollar, qui sont des objets socialement construits. Cette distinction d'objets, naturels ou socialement construits, a une importante conséquence épistémique. En ce qui concerne la race, si la race est un genre naturel, elle est un objet d'étude possible pour les sciences naturelles. Si la race est un genre construit, une construction sociale, alors elle est un objet d'étude possible pour les sciences humaines et sociales. Et je me propose ici d'analyser, enfin en tout cas de poursuivre l'analyse de ce matin, la tendance forte aux États-Unis depuis au moins le début du XXIe siècle. Encore une fois, je ne suis pas historienne, donc je ne m'intéresse pas à la généalogie de cette tendance, qui consiste à redonner une consistance scientifique à l'idée que la race est un genre naturel, donc susceptible d'être étudié par les sciences naturelles, par opposition à un genre social. Et donc que la race est une catégorie pertinente en biologie, biologie des populations, en génétique et dans les applications médicales de ces sciences, comme si ces sciences tenaient un discours distinct de facteurs sociopolitiques. Et par exemple, en médecine légale, on en a aussi parlé un peu ce matin, les échantillons humains prélevés sur une scène de crime peuvent y être systématiquement identifiés selon la race des humains. Ce qui ne peut être pertinent que si l'on est convaincu que la race se lie ou est située dans le corps humain comme objet d'étude physiologique. Cette appréhension de la race comme objet des sciences naturelles est trop strictement, en tout cas trop souvent strictement, corrélée avec l'idée que la race est réelle. Et c'est la deuxième partie de mon titre, l'affaire de la réalité de la race. C'est cette opposition naturalisme-constructivisme ou natural kind and social kind, je voudrais la travailler en relation avec la question de la réalité de la race. L'idée est, si la race est réelle, c'est qu'elle est biologique, et si elle n'est pas biologique, c'est qu'elle est une illusion. Donc là, je simplifie, je caricature cette position, mais qu'on entend et dont je vais montrer qu'elle a une pertinence, en tout cas dans les discours publics. Et ma présentation se déroulera en deux temps. D'abord, je voudrais redistinguer soigneusement entre les deux systèmes d'opposition confondus, genre naturel, construction sociale, et objet réel, objet fictionnel, et montrer que si la race n'est pas un genre naturel, ça ne signifie pas pour autant qu'elle est une illusion, mais elle peut être, en tout cas c'est ma position, construite et réelle. Et puis dans un deuxième ou second temps, je préciserai ce que peut signifier « la race est un genre naturel » lorsqu'on se place du point de vue du biologiste des populations Et je voudrais montrer que le sens ne peut être détaché du contexte social et politique général dans lequel se prend la décision de soutenir la proposition selon laquelle la race est un genre naturel. Et je voudrais donc conclure que la race n'est pas un genre naturel et que la question pertinente est en réalité de comprendre pourquoi certains chercheurs persistent à tenter de lui donner une consistance en nature. Donc premier temps, la distinction entre genre naturel et genre construit. Et vraiment l'idée importante, c'est qu'il ne faut pas confondre l'opposition genre naturel-genre construit et l'opposition objet réel-objet fictionnel. Dans les discours ordinaires, la position philosophique, sociologique, universitaire et dominante aujourd'hui, on en a parlé ce matin encore, selon laquelle la race est une construction sociale, est largement relayée dans une version populaire sous la forme « la race n'existe pas » ou « la race n'est pas réelle ». Par opposition, le fait que la race puisse être pensée comme un genre naturel est censé lui conférer une réalité physique, dont sont censés témoigner un certain nombre de pratiques, comme les tests génétiques de généalogie dont on a parlé ce matin, ou la conception et la commercialisation de médicaments, de vitamines, ciblant des populations racialement distinctes. Or, il faut distinguer la question de l'origine des objets et la question de leur statut de réalité. Il y a une tendance très répandue à penser que les objets relevant d'un genre naturel sont indiscutablement réel. Alors pour prendre les exemples de Ian Hacking, la montagne Sainte-Victoire existe vraiment, elle est bien réelle, de même que les quarks par exemple, alors que les objets construits par les hommes, le tableau de Cézanne représentant la montagne Sainte-Victoire, enfin la montagne Sainte-Victoire dans le tableau de Cézanne, sont des fictions. Cette affirmation consiste à confondre l'origine d'un objet et son statut de réalité. La position du constructivisme social consiste à affirmer qu'il existe des faits sociaux, des constructions humaines, qui sont bien réelles. L'euro, par exemple, construction humaine, existe vraiment. Il a des effets bien réels sur les États, donc ces entités collectives que sont les États, sur les relations internationales, les dettes, les taux de chômage, le commerce extérieur, etc. Il a des effets sur les comportements individuels, sur les relations intersubjectives, toujours aussi institutionnellement déterminées à l'intérieur des États, par exemple avec 1,20€, on peut acheter une baguette de pain à Paris, mais pas un appartement. Le dollar ou l'euro sont d'origine humaine, mais ce sont des faits sociaux, et ça n'en fait pas des illusions que n'importe quel individu pourrait librement choisir de nier ou il pourrait choisir de s'affranchir. En ce qui concerne la race, soutenir qu'elle est une construction sociale consiste bel et bien à soutenir qu'elle n'est pas un genre naturel. Pour autant, ça ne signifie pas que les catégories raciales seraient des productions purement imaginaires, des catégories sémantiques, sans aucun rapport avec la réalité, des illusions ou ce que Naomi Zack appelle des fantaisies identitaires. Et c'est pourtant à cette thèse qu'est souvent réduit le constructivisme. Cette position, c'est celle que le philosophe Lawrence Bloom nomme la construction sociale comme idée de la fausseté, « falsehood idea of social construction ». Cette position ne peut être soutenue que si elle s'accompagne de la thèse ontologique du réalisme naturaliste ou physicaliste, autrement dit de la thèse selon laquelle n'est réel au sens strict que ce qui existe dans le monde physique ou naturel. Or, pour déterminer si un genre, un kind, est réel, il faut mobiliser les critères des sciences dont il relève. Un autre philosophe, le philosophe Ronald Sundström, suggère qu'un genre social est réel lorsqu'il est doté d'une cohérence dépendant de la conjonction de trois types de forces et de normes sociales. Une imposition institutionnelle de haut en bas, un effet d'appropriation ou de résistance et ou de résistance opérée de bas en haut, et enfin une fonctionnalité normative horizontale de telle sorte que ce kind s'insère dans un système de normes et d'institutions sociales plus large. La cohérence du genre, donc le fait qu'il s'agisse bien d'un genre, est démontrée par sa valeur explicative et prédictive pour rendre compte de comportements individuels et collectifs. En l'occurrence, si la race est un genre social, on peut en déterminer le caractère réel ou non selon les critères des sciences sociales, et donc selon ces trois forces. Elle revêt sa cohérence de la conjonction 1 de la force institutionnelle. Les catégories raciales sont imposées institutionnellement, alors de manière paradigmatique, dans les catégories du recensement états-unien, britannique, indien, sud-africain, etc. Les catégories, deuxièmement, sont mobilisées, renégociées, discutées par les catégorisés, à l'occasion, par exemple, de la reformulation de la question raciale, hein, du recensement tous les 10 ans aux États-Unis, et en ce moment, tout particulièrement, mais aussi dans un certain nombre de phénomènes sociopolitiques, comme le passing, dont on a parlé aussi ce matin. Et troisièmement, les catégories sont validées horizontalement dans leurs interactions répétées avec d'autres catégorisations socio-économiques, politiques, nationales, etc. Cette cohérence est démontrée par la fécondité de l'explication raciale pour décrire et interpréter certains phénomènes sociopolitiques actuels, parmi lesquels des phénomènes de discrimination, de stigmatisation, de violence, d'inégalité, mais aussi des phénomènes d'auto-identification et de solidarité. Donc si la race n'est pas fondée en nature, elle n'est pourtant pas par la même fictive. Et j'aime citer cette formule de Colette Guillaumin, qui à mon avis résume parfaitement cette idée. Je la cite, « Non, la race n'existe pas. Si la race existe, non, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. » Fin de citation. Donc on peut défendre une position constructiviste et réaliste du concept de race en soutenant que son domaine de pertinence est celui des sciences humaines ou sociales et non pas des sciences naturelles et que son mode de réalité est sociopolitique et non pas biologique. Nos catégories raciales sont déterminées avant tout par des facteurs sociaux. Les groupes raciaux sont des groupes sociaux. Toutefois, il faut prendre garde à ne pas caricaturer le constructivisme ici. Il ne se contente pas de poser le construit social dans une opposition radicale aux données naturelles. Contrairement à la position de la construction sociale comme idée de la fausseté, la première position de construction sociale selon Bloom, la position constructiviste qu'il s'agit de défendre ici est celle que Bloom nomme la position du sens social de la construction sociale et qui ne s'élabore pas dans une opposition radicale avec le naturalisme. Elle s'interroge plutôt sur la manière dont une signification et une valeur sociale sont accordées à des différences corporelles qui peuvent aussi bien évidemment s'analyser comme des mécanismes naturels. En effet, il serait absurde de prétendre que les critères sociaux de construction des races ne reposent sur rien de naturel si, par naturel, on entend, par exemple, ce dont on a parlé ce matin, un donné phénotypique des différences empiriquement observables entre les êtres humains. Empiriquement, généralement, la catégorie noire rassemble des gens dont la couleur de peau est plus sombre que celle des individus désignés comme blancs. On ne peut négliger, me semble-t-il, et peut-être en partie pour répondre à la question de « alors c'est quoi la race finalement posée ce matin ?» on ne peut négliger la puissance de ce que Dubois appelle l'étiquette visible de la couleur, mais aussi de bien d'autres caractéristiques corporelles saillantes, ou rendues saillantes, forme des paupières, texture des cheveux, etc., dans la construction sociale des groupes raciaux, c'est-à-dire racialisés. Historiquement, la validation du concept de race a été facilitée par l'apparente évidence naturelle de la visibilité des différences superficielles entre les humains. Comme le rappelle Ian Hacking, la catégorie de race est imposée, je cite, « car les différences superficielles entre races existent dans la nature et sont immédiatement reconnues ». Fin de citation. On peut aussi traduire, en termes biologiques, ces marqueurs corporels visibles qui ont pu servir à fonder des taxonomies raciales. La couleur de la peau est bien l'effet de l'expression dont on peut étudier les déterminants génétiques de la mélanine. Toutefois, il est aussi désormais bien établi que ces taxonomies, qui ont pu avoir une prétention scientifique, fondée sur ces différences que Hacking nomme superficielles et immédiatement reconnues, ont commis deux erreurs. D'une part, elles ont accordé trop de validité épistémique aux critères de ressemblance externe pour définir des groupes homogènes et bien différenciés dans l'espèce humaine. D'autre part, elles ont associé à cette étiquette visible un ensemble systémique d'autres critères, là encore on en parlait ce matin, internes, intellectuels, moraux, culturels, etc. Soutenant que la différence visible, superficielle, était le signe de différences essentielles et hiérarchisées. Donc le discours naturaliste actuel, et oui, un dernier point aussi, j'en parle pas ici, mais bien évidemment aussi, ces différences, disons, pensées comme ou conçues comme immédiatement perceptibles sont là aussi des différences qu'on a appris à considérer comme étant immédiatement perceptibles et qui sont toujours susceptibles de ratage. Là encore, on en parlait ce matin. C'est la prétention des autorités de Vichy à nous apprendre à reconnaître le juif alors qu'il n'était pas immédiatement perceptible. Mais c'est aussi, encore une fois, les phénomènes de passing où tout se joue sur le fait qu'on peut ne pas voir les Noirs ou les Africains-Américains métis à... de type caucasien, pour reprendre des catégories états-uniennes. Donc le discours naturaliste actuel se fonde bien évidemment sur d'autres bases que celles du simple phénotype et se défend de tout essentialisme racial. L'argument naturaliste est aujourd'hui présenté comme appartenant à un champ strictement épistémique. Et donc c'est mon deuxième grand moment, le naturalisme racial aux États-Unis, c'est-à-dire la position selon laquelle la race est un genre naturel, se déploie selon plusieurs formes dans les discours des biologistes, des épistémologues, des généticiens. Et je ne vais pas m'intéresser à toutes ces formes, mais comme Claude-Olivier le disait ce matin, il y a des différences dans ces différents sous-champs. Et je pense qu'il faudrait entrer précisément dans la manière dont chaque sous-champ est construit, se construit de manière interne et aussi de manière relationnelle par opposition aux autres sous-champs et comment la race joue avec d'autres catégories dans chacun de ces sous-champs. Mais je vais ici m'intéresser uniquement à l'approche populationniste. Et je veux préciser aussi avec un autre philosophe, Quation Spencer, qu'un certain nombre de difficultés concernant le sens du naturalisme racial défini ainsi résident dans le fait qu'il y a un croisement, mais il n'y a pas de recouvrement, entre le sens attribué à la catégorie race par les généticiens des populations dans un débat d'experts mené dans des articles de revues scientifiques, on a mentionné Nature ce matin, Cell, PLOS Genetics, etc., et le sens recherché par des philosophes, politistes, sociologues, notamment ceux qui relèvent du champ de la Critical Race Theory aux États-Unis, pour lesquels il s'agit de comprendre comment la catégorie est mobilisée dans des discours ordinaires, dans des comportements sociaux, c'est-à-dire pour lesquels il s'agit de comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens lorsqu'ils pensent race ou qu'ils pensent en termes raciaux ou qu'ils appliquent des catégories raciales à des pratiques publiques ou privées. D'accord ? Donc il y a deux... Donc il y a recouvrement et il y a des endroits où ces sens peuvent en effet sembler être semblables, mais il y a aussi une différence entre ces deux champs. Et Spencer souligne que le dialogue entre ces deux grands champs de la réflexion sur le statut de race, genre naturel ou construction sociale, s'apparente ainsi souvent à un dialogue de sourds, dans la mesure où la race dont il s'agit n'est en fait pas le même concept. Et le concept est, comme je l'ai dit dans mon premier temps, ontologiquement, épistémologiquement et discursivement dépendant du champ dans lequel il se déploie. Mais même en admettant donc ce contextualisme du concept, qui est ma position que je ne vais pas plus défendre ici mais dont on peut reparler, je voudrais ici montrer maintenant que les arguments en faveur de la race comme genre naturel mobilisés dans l'approche cladistique populationniste sont assez fragiles. Donc même en négligeant qu'il peut y avoir un autre type de champ. Donc les deux représentants sur lesquels je vais m'appuyer de cette approche sont Robin Andreasen et Philippe Kitcher. Robin Andreasen a écrit plusieurs articles, A New Perspective on the Race Debate, paru en 1998, Race, Biological Reality or Social Construct, dans Philosophy of Science, paru en 2000, The Cladistic Race Concept, A Defense, dans Biology and Philosophy, en 2004, et Philippe Kitcher a écrit notamment deux articles, Race, Ethnicity, Biology, Culture, paru en 1999, et Does Race Have a Future, paru dans Philosophy and Public Affairs en 2007. Donc c'est essentiellement ces articles-là qui vont être le cœur de ce que je vais dire maintenant. Donc chez eux, et en général, la cladistique est une méthode qui relève de l'ambition taxonomique. Cependant, contrairement aux taxonomies fixistes mentionnées plus haut, la cladistique n'use pas de critères de ressemblance, mais elle cherche à construire son cladogramme ou son arbre à partir de relations de parenté. Elle mobilise donc des critères phylogéniques. Elle procède par identification et distinction de certains caractères constituant des nouveautés évolutives communes à plusieurs êtres vivants et qu'on peut rapporter à un ancêtre commun, le groupe ainsi composé d'un ancêtre et de ses descendants étant un clade. La méthode cladistique ne propose donc pas de tableau systématique ni de série graduelle des espèces comme groupes descendant les uns des autres, mais un arbre hiérarchisé de clades traduisant une histoire. Robin Andreasen mobilise la méthode cladistique pour justifier la pertinence et la validité d'un concept biologique de race humaine, sans que la race ne repose sur la conjonction de caractéristiques phénotypiques partagées et d'une origine géographique commune. Selon elle, il est possible d'identifier des relations de descendance entre des groupes humains à un niveau infraspécifique, relations qui définissent ainsi des races clades différentes. Ce n'est pas la couleur de sa peau ou n'importe quelle autre indication corporelle qui définit la race d'un individu, mais sa place dans un groupe monophylétique. Le cladogramme est construit selon les époques de migration des populations, la première séparation se produisant lorsqu'un groupe a migré hors de l'Afrique il y a 200 000 ans, produisant un race-clade africain, un race-clade non-africain. Andreasen définit les races, je cite, comme « des séquences ancêtres-descendants de populations reproductives qui partagent un ancêtre commun », une population reproductive étant un ensemble de populations locales connectées sur le plan de la reproduction et raisonnablement isolées d'autres sur ce même plan de reproduction. Fin de citation. Kitcher, de son côté, définit aussi les races comme des populations reproductivement isolées, mais ne met pas l'accent tant sur le caractère dynamique et historique des races comme clades que sur l'importance de la distance phénotypique et génétique, qui sépare de la sorte deux groupes qui sont demeurés suffisamment longtemps isolés du point de vue reproductif. Comme Andreasen, il soutient que les races sont biologiquement réelles, quoiqu'elles ne constituent pas les essences ou les types auxquels on les a longtemps assimilés. Les races clades relèvent d'une typologie qui ne repose pas sur la mise au jour de propriétés intrinsèques des groupes, mais sur une propriété relationnelle, la relation entre des individus et un ancêtre commun. En outre, les différences superficiellement saillantes entre des individus et des groupes ne sont que secondaires dans cette classification. C'est plutôt un effet qu'un critère de classification. Et les races clades ainsi redéfinies ne correspondent en rien aux races historiquement ou légalement définies comme telles aux États-Unis, aujourd'hui par exemple, pour prendre encore une fois un exemple massif, puisque les races existent administrativement. Par exemple, dans la mesure où les échanges se multiplient, il n'existe, selon Andreasen et Kitcher, plus, ou pour ainsi dire plus, de groupes isolés, donc plus de populations reproductives au sens strict. Donc dans cette approche, comme Claude-Olivier le disait ce matin, les races sont en voie de disparition. En particulier, noir et blanc aux États-Unis ont un taux suffisant de miscegenation pour que l'on ne puisse plus parler de races différentes au sens de clade. Ou bien encore, selon cette théorie, la théorie d'Andreasen, les Asiatiques sont divisés en deux races clades, là où, aux États-Unis, la catégorie asiatique n'en constitue qu'une seule. Ou bien que le recensement américain distingue Asian Indian, Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a pas strictement correspondance entre les races clades d'Andreasen et les catégories administratives et ou populaires des races aux États-Unis. Et certains, Kwame Appiah et Joshua Glasgow par exemple, ont pu souligner que dans cette perspective, les Amish, qui pratiquent une endogamie restrictive, pourraient être considérés comme une race, ou en tout cas une race en cours de constitution. C'est pourquoi Kwame Appiah et Joshua Glasgow ont estimé que ce concept cladistique de race, différent du concept populaire, à la fois quant aux critères mobilisés pour définir ce qu'est une race et quant à l'extension des membres compris dans les différentes races clades, désignent en réalité quelque chose de tout à fait différent de la race ordinaire. Et selon eux, clade n'offre pas une révision conceptuelle du concept de race qui lui donnerait une pertinence biologique renouvelée, c'est simplement un autre concept, le concept de clade ou celui de population. D'un point de vue biologique, disent-ils, il est parfaitement inutile de rapporter ces concepts à celui de race. On ne gagne ni en description, ni en prévision des phénomènes étudiés. La cladistique et le naturalisme des populations peuvent donc parfaitement fonctionner sans utiliser jamais le concept de race. Ce n'est donc pas du domaine scientifique que relève la décision linguistique selon laquelle, lorsqu'on parle de population au niveau de la sous-espèce humaine, on parle de race, ou on définit des races biologiques. Ça relève du domaine sociopolitique. Dans un article récent, celui de 2007 que je mentionnais tout à l'heure, Kitcher offre à ce sujet d'ailleurs une conclusion aporétique. Il revient sur ses études et il écrit « Est-ce que les races sont des genres naturels ? Je ne pense pas. Il existe des phénomènes biologiques qui peuvent être mis en relation avec des distinctions infraspécifiques que les biologistes trouvent utiles dans le cas des animaux non humains. Et de manière plus pertinente ici, qui peuvent être utiles pour la géographie historique humaine. On ne peut toutefois rien en conclure quant à la pertinence des divisions infraspécifiques pour notre propre espèce. Vaut-il la peine ou non de maintenir la notion de race ? Cela demeure un vrai problème. » Fin de citation. Le plus étonnant est donc sans doute que l'évidence positiviste ait toujours une telle puissance qu'on ne puisse s'empêcher de persister à chercher en biologie la validation ou l'invalidation définitive du concept de race, en espérant y trouver un référent, un usage pertinent, ou bien au contraire la preuve définitive qu'il n'existe pas un tel référent et un usage pertinent. Or, comme l'affirme Sally Haslinger, rechercher la légitimation de la race à l'aide de méthodes de sciences naturelles consiste à commettre une erreur de catégorie. Les sciences naturelles ne peuvent rien nous dire à ce sujet, car elles n'offrent pas les outils adaptés au « kind ». C'est donc ailleurs, non pas contre, mais indépendamment du naturalisme biologique, qu'il faut chercher le sens du concept de race. Les apories des chercheurs en sciences naturelles, des épistémologues, doivent nous inviter, pour reprendre la formule d'Aslanger, à, et je la cite, « passer de la question métaphysique scientifique « les races existent-elles réellement ?» à la question politique, quel concept de race devrions-nous employer pour atteindre les objectifs antiracistes que nous partageons ? » Fin de citation. Alors pour conclure, pourquoi insister sur l'ancrage naturel de la race ? Les raisons pour lesquelles certains chercheurs, en biologie des populations, parce que c'est là-dessus que je me suis intéressée ici, hein, mais encore une fois, il faudrait faire cette réflexion dans les différents sous-champs. Donc, les raisons pour lesquelles certains chercheurs, à l'heure actuelle aux États-Unis, tentent à mobiliser le terme de race pour montrer que les ou au moins des certains groupes de population identifiés selon les catégories raciales, légales, administratives du recensement sont des groupes biologiquement pertinents, ces motivations sont des motivations politiques. Et je pense ici notamment, encore une fois, à Quashon Spencer, que j'ai déjà mentionné, qui insiste sur l'idée que la convergence entre les théories des clusters et les catégories du recensement sont une preuve de la validité de ce qu'il appelle la partition Blumenbach, soit la division de l'espèce humaine en 5 races distinctes. Quelles sont ces raisons politiques ? Il ne s'agit pas nécessairement de motivations conservatrices ou racistes. Il peut s'agir de justifier par le recours à l'ancrage biologique l'usage des catégories du recensement états-unien à des fins de lutte contre la discrimination raciale, pour renforcer notamment la légitimité aux États-Unis de la discrimination positive sur une base plus ouvertement raciale, comme le soutiennent un certain nombre de penseurs, Ronald Dworkin, Glenn Lowry, alors même que la pertinence de la discrimination positive, de ses effets, de ses limites, de ses dangers, est à nouveau discutée largement dans la société américaine. La sociologue Anne Morning le souligne, je la cite, « L'argument du caractère non biologique de la race a été déployé afin de saper les soutiens à la collecte par l'État d'informations relatives à la race et par extension à des politiques de discrimination positive. » Il ne s'agit donc pas, là encore, d'opposer les gentils, constructivistes naïfs qui estimeraient que la race n'a pas de pertinence biologique aux méchants naturalistes qui voudraient soutenir que la race est biologique pour des motifs racistes. Hein. Les motifs politiques valent dans... Enfin, les motifs politiques sont à prendre, là encore, avec beaucoup plus de finesse. Ça s'explique par la confusion, me semble-t-il, que je présentais dans mon premier moment, celle entre l'origine naturelle ou construite et le statut réel ou fictionnel de la race. Ça s'explique par la confusion selon laquelle, si la race est biologique, alors seulement elle est réelle, et si elle est réelle, elle ne peut être que biologique. Si la race est construite, alors dans les discours ordinaires, ça signifie trop souvent qu'elle n'existe pas, et donc par conséquent, il n'est pas nécessaire de chercher des éléments politique ou sociologique, il n'a pas besoin de collecter des données sur les inégalités raciales, sur les effets de telle ou telle politique antidiscriminatoire ou de telle ou telle pratique discriminatoire. Dans ce cas, l'enquête consisterait à créer de toute pièce l'objet sur lequel elle enquête. Ce serait comme enquêter sur les inégalités entre les sorciers, hein, puisque souvent, dans cette optique-là, la race est rapportée, enfin, le statut du concept de race est rapporté historiquement au statut du concept de sorcellerie ou de sorcière. Donc, ce serait comme enquêter sur des sorciers et des moldus, par exemple. C'est aussi pourquoi on ne peut pas séparer la recherche actuelle sur les différences biologiques entre les groupes menée au nom de la reconnaissance de différences raciales entre les groupes, et donc au nom du principe selon lequel la race est un genre naturel, des discours des politiques publiques et des discours ordinaires sur la race. Il est illusoire de penser pouvoir séparer les domaines ou de soutenir que la race revêt des sens radicalement différents, parfaitement distincts et sans porosité selon les domaines d'usage. En raison de la prégnance de l'argument d'autorité de la science dans le politique, les domaines sont poreux. Soutenir pour mener des recherches en biologie des populations que la race est un genre naturel a des conséquences sérieuses, potentiellement contradictoires pour la vie politique états-unienne. A des conséquences sur les politiques publiques, soutenant la discrimination positive, mais également peut avoir des conséquences sur le renforcement de la ligne de couleur, pour reprendre le concept de Dubois. Donc ce que j'ai appelé dans mon titre « l'affaire de l'opposition entre genre naturel et genre construit » est bien une affaire politique et non pas un désaccord épistémique. On l'a vu, et je conclurai sur ce point, ressurgir très récemment dans un éditorial du New York Times du 23 mars 2018 intitulé « How genetics is changing our understanding of race » rédigé par un généticien, professeur à Harvard, David Reich, et qui reprend des arguments hein, qu'on a déjà souvent entendus, on en a parlé ce matin, ceux de Edwards, ceux de Nenad Sesadic, ceux de Nicholas Wade. Dans son éditorial, il explique que, il explique au nom de sa compétence scientifique de généticien, il explique qu'il faut mettre en garde les chercheurs en sciences sociales qui réfutent la pertinence biologique des groupes raciaux parce que, ce faisant, ces chercheurs sont en train, sans nécessairement le comprendre et sans nécessairement le vouloir, de renforcer la possibilité d'usage raciste de la génétique, alors qu'il faudrait au contraire adopter la position biologique pour pouvoir s'y opposer et lutter contre le racisme. Une fois de plus, bien sûr, il joue sur la confusion conceptuelle entre population, au sens que j'ai défini, et race. S'il est correct et légitime de parler de différences moyennes entre des populations en termes de fréquence de traits génétiques particuliers et susceptibles d'être ciblées, les populations en question, celles qu'il mentionne dans son livre, Européens du Nord, Africains d'Afrique de l'Ouest, qui sont encore une fois les populations sur lesquelles il travaille, ne sont pas des races au sens politique et ordinaire du terme, revêtues aux États-Unis, dans le contexte états-unien. Et Reich admet d'ailleurs que les Blancs, identifiés comme tels dans les catégories officielles et dans les discours ordinaires, regroupent quatre groupes de populations qu'il faut selon lui considérer comme génétiquement distinctes. Il reconnaît donc que les Blancs, la race blanche, recouvrent des catégories de populations identifiables génétiquement, mais donc que les races et les populations sont bien des concepts désignant des réalités différentes. Les biologistes travaillent sur des clades, sur des populations, mais, pour reprendre la formule de Haslanger, pour atteindre les objectifs antiracistes que nous partageons, il faut insister sur le fait que les races, telles qu'elles existent dans la réalité administrative, légale, politique, états-unienne, sont des groupes sociaux contextuellement construits, très différents de ces populations localement identifiées. Les désigner comme des races revient à choisir, donc désigner ces populations comme des races, revient à choisir un terme historiquement chargé, scientifiquement douteux, qui, sans nul doute, affecte le débat public, étant donné la charge d'autorité que revêt la science. Réfuter cette tentative ne signifie pas que les races n'existent pas, mais que leur existence dépend de nous, que leur réalité est sociopolitique et qu'elles ne sont pas un objet pertinent des sciences dites naturelles. Merci. Merci.